Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Pour l'industrie, c'est un enjeu vital. Sans une sécurisation mais maximale de sa chaîne d'approvisionnement en métaux critiques et stratégiques, l'entreprise court à sa perte. Pour en parler, je reçois Laurence Rimboeuf, co-dirigeante du cabinet Psyché 16, qui accompagne et conseille les industriels dans la gestion de ce risque. Bonjour Laurence Rimboeuf.
Bonjour Ali.
Allez, il y a trois grands risques pour une entreprise. Le premier, c'est le risque géopolitique, avec une forte concentration donc, de la production de ces métaux. Alors, exemple, cobalt, 70% en République démocratique du Congo, lithium, 52% en Australie. Donc ça, les entreprises doivent le prendre en compte d'abord.
Bien entendu, le premier risque qui pèse sur les chaînes d'approvisionnement, c'est un risque géopolitique.
Oui.
Aujourd'hui, des pays comme la Chine, notamment, qui a pris une position hégémonique et quasi monopolistique sur le sujet des métaux critiques et stratégiques, qui appose régulièrement des restrictions. On l'a vu l'année dernière sur le gallium, le germanium, le graphite naturel.
Des embargos, carrément.
Des embargos
sur ces
exportations.
Le Japon.
Exactement, le Japon. Et puis la guerre avec les États-Unis. Là, tout récemment, au mois d'août 2024, des restrictions sur l'antimoine, ça vient de tomber. On a en plus tout un contexte de sanctions économiques qui sont liées à la guerre en Ukraine sur les métaux qui viennent de Russie. Donc il y a des enjeux géopolitiques qui sont assez forts pour les industriels
français. Aussi, on le voit, vous le remarquez également, un certain nombre de pays qui décident de garder la valeur ajoutée. Donc, de ne pas vendre ces métaux de manière brute, mais de se dire, par exemple, l'Indonésie, pourquoi pas créer moi aussi une filière de fabrication de véhicules électriques.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la stratégie des électro-États. Donc, ce sont les États du Sud global, mais les pays africains pourraient faire aussi la même chose, qui, finalement, emboîtent le pas de la Chine et qui, en plus d'extraire, descendent la chaîne de valeur en aval sur le raffinage des métaux et sur toute l'industrie de transformation pour bénéficier de cette valeur ajoutée aval.
Et puis on a le Mexique, par exemple, qui en 2022 nationalise la production de lithium.
On a le Mexique qui nationalise la production de lithium. On a l'Indonésie qui, avec Widodo déjà de son temps, a tenté et tente toujours de taxer les exportations de minerais pour conserver la transformation des métaux sur son sol. On a beaucoup de pays qui avancent bénéficier de cette valeur ajoutée qui est la plus grosse valeur ajoutée des chaînes d'approvisionnement.
Donc risque géopolitique. Deuxième risque, le risque économique et financier, une volatilité des prix, mais alors assez incroyable. Un exemple, le lithium. En 2022, 80 000 dollars la tonne. En décembre 23, 22 000 dollars.
Oui.
Difficile de conduire une politique.
Très difficile. Une forte volatilité des prix qui peuvent varier comme le lithium qui, au sortir du Covid, était quand même aux alentours de 15 000 dollars la tonne, qui a bondi effectivement à 82 000 dollars la tonne en 2022 pour ensuite redescendre à 35 000 dollars. Les métaux sont sujets à une très forte volatilité des prix.
Spéculation, quoi.
Avec des spéculations de marché, avec aussi des impacts, des sanctions économiques et des restrictions qui font bondir les cours d'un mois sur l'autre. Et on est quand même, attention, au-delà de la volatilité des prix, sur un contexte d'augmentation régulière des cours des métaux. Depuis les 10 dernières années, on a le cobalt, le lithium, le magnésium, dont les cours ont bondi de plus de 200 ou 300%.
Donc un risque important à prendre en compte, évidemment, pour l'entreprise. Allez, troisième risque, ce sont les risques liés aux lois et aux règlements internationaux à travers ce qu'on appelle la conformité, ce que les anglo-saxons appellent la compliance. Donc, de plus en plus compliqué quoi, pour une entreprise qui doit faire venir des métaux stratégiques chez elle.
Alors, compliqué et en même temps contraignant. Il y a un véritable bouleversement législatif depuis quelques années sur le marché avec la loi Pacte 2017, le règlement batterie et tout récemment la CS3D, ouais, qui oblige les industriels à développer beaucoup plus de transparence sur leur chaîne d'approvisionnement en amont, au-delà des fournisseurs N-1, qui les oblige à une responsabilité élargie, ouais, vis-à-vis de leurs fournisseurs et qui les oblige à un sourcing éthique.
Ouais. Alors, environnement, protection de l'environnement, évidemment, durabilité, évidemment, et aussi respect des droits de l'homme.
Exactement. Alors ça, c'est une nature de risque aussi extrêmement importante. Ce sont les risques ESG et réputationnels, ouais, en amont de la chaîne de valeur. Dans quelles conditions sont extraits les métaux que les industriels utilisent ? Donc, est-ce que les impacts sur l'environnement respectent les standards européens ou est-ce que c'est plutôt une catastrophe environnementale dans les pays en Chine ou en Afrique qui sont peu respectueux de la réglementation en matière d'environnement, mais également aussi en termes de conditions de travail. Est-ce qu'on est face à du travail illégal ? Est-ce qu'il y a du travail des enfants ? Régulièrement, les ONG dénoncent le travail des enfants dans les mines de cobalt en RDC. Voilà. Est-ce qu'on est face à ces problèmes-là qui créent un vrai risque réputationnel en aval pour l'industriel ?
On a listé les trois grands risques ou il y en a un autre ?
Oui, il y en a. oui, on a listé les risques majeurs.
Ouais. Alors, justement, vous existez depuis combien de temps, Psyché 16 ?
Psyché 16 existe depuis l'année dernière, en fait, suite à ma rencontre avec Guillaume Pitron, qui est un expert sur les sujets des métaux critiques et des métaux rares, qui a écrit « La guerre des métaux rares ». On s'est rencontrés au début d'année 2023, au moment où l'Europe travaillait et communiquait son CRM Act, le Critical Raw Materials Act.
Voilà, donc la stratégie de l'Europe en ce qui concerne
l'approvisionnement. Les directives de l'Europe en matière d'extraction, de raffinage, mais aussi de recyclage. Et on a partagé le constat d'une vraie dépendance et d'une vulnérabilité des industriels français et européens. Et on s'est dit qu'il fallait agir.
Donc vous les conseillez, ces entreprises ?
Oui.
Vous en avez déjà dans votre portefeuille. Vous les travaillez conscientes des problèmes ou pas ?
Oui, conscient des problèmes. Alors, Psyché 16, c'est une société d'intelligence minérale. Ouais. Donc, on fait de l'intelligence économique spécialement dédiée sur les métaux critiques et stratégiques, les matériaux et plus largement les matières premières. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même de l'ensemble des industriels sur le sujet. Et les questions qui nous posent sont d'abord des questions par rapport à leurs propres enjeux. Quels sont les métaux qui sont les plus critiques pour mon outil de production. Est-ce qu'il y a des risques qui pèsent sur mes chaînes d'approvisionnement ? Est-ce que mes chaînes d'approvisionnement vont être touchées par les
tensions ? Donc la première chose à faire, c'est une cartographie. On est d'accord ?
Alors, voilà, la première.
J'espère qu'ils l'ont fait déjà. Vous les aidez ?
Certains l'ont fait. Pour ceux qui ont le plus avancé, d'autres pas encore. Certains sont en cours. Voilà, les états d'avancement sont différents. Mais voilà, la première des choses, c'est de poser le contexte et les enjeux qui leur sont propres. Et ensuite, on les aide sur l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies. Alors, stratégie de sécurisation des chaînes d'approvisionnement, mais aussi stratégie d'économie circulaire. Comment intégrer plus de matières recyclées dans les approvisionnements ? Comment instaurer des boucles courtes et des boucles longues de recyclage ? Et on les engage sur un sujet qui nous tient à cœur aussi, qui est toutes les stratégies de sobriété industrielle. Parce que pour sortir d'une dépendance, un des leviers importants, c'est de consommer moins.
Ce que vous voyez quand même, c'est dans les cartos que vous avez fait ou que vous avez vu, c'est quand même des dépendances vis-à-vis de la Chine, de l'Afrique, etc. C'est ça, concrètement.
Tout à fait. C'est des dépendances aujourd'hui.
Pas de chaîne d'approvisionnement en Europe.
Alors, les chaînes d'approvisionnement passent par l'Europe.
Oui.
Mais l'amont des chaînes d'approvisionnement, les métaux. Voilà, exactement. L'extraction et le raffinage des métaux aujourd'hui est concentré dans les pays, la Chine, évidemment, en premier lieu, les pays du sud global. On retrouve l'Indonésie, les Philippines, en Afrique aussi. L'Afrique regorge de métaux.
Donc, on ne peut pas être totalement indépendant, nous, en Europe, les industriels.
On peut quand même. C'est-à-dire qu'on développe. Alors l'État français, le gouvernement agit beaucoup en termes de diplomatie minérale pour aller nouer des accords avec des pays qui sont plus alliés que la Chine. Mmh. Donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères va nouer des accords avec l'Australie, mmh. qui regorge de métaux, mmh. avec le Canada, avec la Mongolie, avec les pays d'Asie centrale.
Mmh. Ne pas être dépendant à 100% d'une source, évidemment, je suppose que ça c'est...
Ah oui, diversifier ses approvisionnements pour les sécuriser.
Ouais. C'est vous qui amenez la data, donc la donnée, ou c'est les entreprises qui les ont? Parce que là aussi, il y a chez vous une approche sur la donnée importante.
Oui. Il y a une approche d'expertise pour notre part. On intervient en transfert d'expertise auprès des équipes et des industriels qui sont des grands groupes du CAC 40 ou des ETI qu'on accompagne sur le sujet. Après, on va prendre en compte évidemment aussi leur data, ce dont ils disposent et leur niveau de connaissance de leur chaîne de valeur. Ils vont très bien connaître le fournisseur N-1, parfois le fournisseur N-2.
Mais pas après.
Ensuite, ça sera beaucoup plus opaque et c'est là où on intervient.
Merci beaucoup, Laurence Rimbeuf, pour vos réponses.
Merci.
L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.